une insulte. Regarde-moi, la liberté c'est l'illusion d'avoir le choix. Et je me perds dans ma routine.
Enfin, spectaculaire reprend, mercredi 18 septembre 2024, 14h04. Émission 338, Christophe Rolland au micro, spectaculaire avec ou sans Francis, a priori sans Francis, mais il y a bien invité. Christian Sermet est présent, il est responsable du salon Musée des Confluences et il vient nous parler que bien certes, dans une première partie de l'émission, comme toujours, de lui, on évoquera peut-être la MOM, la Maison de l'Orient Méditerranéen, et notre invité nous parlera surtout des nombreuses expositions au Musée des Confluences. Il y en a toujours une dizaine, non, pour être très précis, il y en a quatre qui sont des expositions permanentes et quatre aussi des temporaires. Alors, actuellement, la quatrième temporaire est tellement temporaire qu'elle s'est achevée à la fin août. C'était l'exposition sur Amour. Et une prochaine démarrera en octobre. Vous souhaitez savoir ce qu'il en sera? Bien, écoutons notre invité. Il sera question dans cette émission d'épidémie. C'est l'une des expositions actuellement. Il ne sera plus trop question d'amour, mais j'ai trouvé un premier titre pour lancer l'émission, même si la programmation musicale ensuite a bien été assurée par nos invités. Écoutons un premier titre, extrait de la compilation des Inrecuptibles de septembre 2024. Écoutons de Malik Djoudi, Vivant, sur l'album Vivant, parce qu'il est question d'amour, il est question de vivant aussi, et je crois que c'est une thématique avec celle de l'émotion et de l'émerveillement qui est chère à notre, sont des thématiques chères à notre invité Christian Sermet. Commençons donc avec de la musique. Vous nous écoutez jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, c'est sur radiocanu.org, si c'est sur internet, très bonne chose, et si c'est à Lyon, c'est plutôt sur le 102.2 de la bande FM. Et voilà. C'est la reprise de Spectaculaire après une petite pause estivale et une reprise en fort bonne compagnie, en excellente compagnie. Je suis vraiment ravi que nous puissions revoir un peu le Musée des Confluences. On avait déjà fait une émission, auditeur, auditrice, je ne sais pas si je vous inciterai à la réécouter en 2019, janvier, émission 188, je crois, avec Johan Cormier. Émission très intéressante, mais le début, ça pêchait un petit peu. La piste sonore n'avait pas démarré tout de suite. Et puis c'était le temps pour moi de Gérald, cela est fini. Et donc nous renouons avec le Musée des Confluences. Johan Cormier, je crois, y est encore, mais nous avons un autre invité. On prend du galon. Christian Sermet, vous êtes responsable du service des expositions. Vous venez pour nous parler un peu de vous, et puis surtout du Musée des Confluences, et davantage des expositions. Les permanentes, vous pourrez bien les évoquer, et les temporaires, je crois qu'il y en a une. Enfin, je ne crois pas. Une, c'est terminée fin août, il y a cela quelques semaines, et une autre va démarrer dans quelques temps. Et bien voilà, je crois que ça fera les différents temps d'émission. On écoutera entre-temps un peu d'Henri Salvador, et puis Céline Dion, je crois que ça va être difficile, mais l'idée est là. Donc Christian, bonjour.
Bonjour.
Et bien pour commencer, pourriez-vous peut-être évoquer bien votre arrivée au musée des Confluences et surtout qu'est-ce que c'est que ce musée? Vous avez connu vous le alors non pas les frères Monconi, mais vous avez connu le passage d'Émile Guimet.
Pas loin.
Oui. C'était 18e ça je crois.
Oui, c'était même avant. Pardon. C'était même avant. Non, j'ai pas connu les frères Monconi. Non, je suis arrivé au musée en 1993 pour payer mes études. J'ai commencé comme gardien de salle les week-ends et pendant les vacances scolaires, puis ensuite médiateur culturel et scientifique.
Mais qu'est-ce que vous avez fait avant?
Ah,
ça peut être intéressant avant, aussi avant.
Avant, j'ai fait des études de droit, et puis ensuite des études d'archéologie et de préhistoire et d'anthropologie physique. Voilà, donc j'ai un diplôme d'anthropologie physique et des cours qui se faisaient, un diplôme qui s'est fait à l'Institut médico-légal de Lyon. Et puis un double cursus préhistoire et au début histoire de l'art, puis ensuite archéologie de la fin de la préhistoire, jusqu'à un DEA dont l'intitulé était la néolithisation, c'est-à-dire en gros les premiers agriculteurs, le néolithique ancien et moyen, c'est-à-dire vraiment la mise en place de ces nouveaux modes de vie dans sur la bordure méridionale du Massif Central, parce que c'est une région où on trouve en France parmi les plus anciens sites, en fait.
Il faudrait une date,
agriculteurs,
si on veut situer un peu en termes de...
En termes de date, on est... alors, ouais. Par rapport à des mouvements qui viennent du sud, puis ensuite du nord, il y a deux mouvements qui se rencontrent, en fait, au milieu de la France. Moi, c'est dans des régions où les premières traces d'une néolithisation, c'est de la céramique, en fait. Et c'est à peu près autour de 6500 ans avant notre ère. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils cultivaient dans le sud du Massif Central? C'était le sud de la Haute-Loire, si vous voulez. Eh bien, la lentille.
Ah bah oui, donc ça n'a,
déjà.
Ça n'a pas trop changé. Le puits n'est pas trop loin, c'est ça?
C'est ça, c'est pas loin.
Mais il y a peut-être quand même ces toutes petites questions que je dois vous poser. Petite, mais peut-être immense aussi. Mais d'un autre côté, je pense que ça va faire une sorte de boucle. C'est qu'est-ce qui vous mène à ces études que finalement, je suppose, vous retrouvez ensuite dans ce métier que vous faites actuellement? C'est quel souvenir peut-être de la petite enfance? Ou qu'est-ce qui fait que vous étudiez une fois le bac passé?
Je dirais pourquoi l'archéologie? Parce que la préhistoire, c'est finalement de l'archéologie avant les humains ou pour les tout premiers humains. Je vais vous répondre parce que ce que j'en sais de plus ancien, c'est ce que ma sœur me raconte et mes parents me racontaient quand ils étaient encore en vie, c'est que quand j'étais petit, j'allais enterrer mes petits Playmobil et mes petites voitures dans le jardin.
Vous faisiez des nécropoles déjà, c'est ça?
Et après, j'allais les déterrer, en fait. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'ai toujours eu un intérêt pour les choses un peu cachées, les choses à découvrir, et voilà. Et ça, je pense que le virus commence comme ça, puis ensuite on va chercher des fossiles avec son oncle dans la Drôme, et puis ensuite on apprend à regarder. On apprend à regarder le sol en marchant et on fait plein de découvertes et après on s'intéresse à ces découvertes, qu'est-ce que c'est, quelle époque, etc. Voilà, un jour en me promenant, j'ai trouvé une pointe de flèche bien pointue avec les ailerons. On appelle ça des pointes de flèche à ailettes taillées dans un silex noir. Et en marchant, elle était là, elle m'attendait. Elle avait sans doute été perdue par un chasseur au Néolithique il y a fort longtemps. Et voilà, c'est ce genre de petites découvertes quand vous êtes gamin qui vous marquent. Et puis après, ben, vous essayez le souhait d'en savoir plus.
Pourriez-vous faire votre cette phrase que j'extrais du petit livre de Pierrick Bailly à la pointe ? Jones, Indiana Jones, nous sommes de la même étoffe tous les deux. L'archéologie est notre religion. Il y a l'archéologie, oui, c'est c'est un moteur, enfin quelque chose.
C'est un moteur, mais quand vous faites des études d'archéologie, après vous apprenez que, en fait, c'est pas tellement l'objet qui est important, mais c'est le contexte dans lequel vous le trouvez, qui vous raconte en fait plein de choses sur l'objet, et que ce qu'il faut préserver beaucoup dans les sites et éviter ces fouilles clandestines, et notamment, je pense aux adeptes du détecteur de métaux qui vont chercher des éléments métalliques, que ce soit des bijoux, des pièces, en faisant des trous partout. Et un objet sorti de son contexte n'a aucune valeur scientifique parce qu'il ne raconte pas grand-chose de plus que ce que l'on peut voir sur lui. Et c'est pas grand-chose par rapport au contexte dans lequel on le trouve. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris en devenant étudiant en archéologie et au fur et à mesure de mon cursus.
Donc votre cursus, je l'ai coupé tout à l'heure, je l'ai interrompu avec cette question des origines pour vous. On dirait qu'on est dans la première partie de l'exposition, les origines, récits, raconter les débuts. Vous arrivez donc gardien, c'est ça, dans les années 90
93, ma première mission. Oui.
Au musée qui n'est
pas encore... Le musée d'histoire naturelle de Lyon, qu'on appelait le musée Guimet.
Qui se situe donc dans le 6e arrondissement.
Dans le 6e arrondissement.
Et vous évoluez avec le musée, et donc en 2014...
Voilà, le projet, c'est un directeur du Québec, d'Amérique du Nord, qui est porteur de la rénovation de l'ancien muséum d'histoire naturelle en un nouveau musée. Il arrive en septembre 99, je suis le premier qui l'engage dans la nouvelle équipe comme chargé de projet d'expo. J'étais médiateur à l'époque, j'avais passé de gardien à médiateur culturel et scientifique, et puis de chargé de projet, je deviens chef de projet d'une grande partie du permanent, puisque deux expos sur quatre avec l'intérim pendant un an et demi d'une troisième, et puis je commets plusieurs expos temporaires dans l'ancien muséum, et puis à son ouverture, l'Aréa Machine, par exemple, qui a été une des expositions qui a ouvert quelques temps après l'ouverture du musée, et puis en 2016, je deviens responsable du service des expositions. Voilà.
Est-ce que dès 99, le projet était un peu, était, comment dire, à défaut d'être évoqué, était-il déjà là, le déménagement du musée Guimet ?
Alors, il était prévu, puisque
il était nécessaire,
et puis il était nécessaire. Le bâtiment était ancien, on ne pouvait plus recevoir du public, si ce n'est avec des travaux qui, de toute façon, ne pouvaient pas permettre d'avoir un musée du 21e siècle. C'est pour cette raison que le département du Rhône, qui en avait la charge à l'époque, a développé ce projet.
Et le nombre d'objets aussi, peut-être, non ? On a évoqué une date tout à l'heure, il faudrait peut-être un chiffre.
Oui.
Il est ahurissant, je crois.
Je crois qu'on en est, après récollement, entre 2,5 millions et 3 millions d'objets. C'est très compliqué à compter. Quand vous avez des boîtes d'insectes, par exemple, s'il faut compter tous les insectes, c'est assez compliqué, mais on est entre 2,5 millions et 3 millions d'objets, exactement.
Et donc, ils se trouvent tous dans ce musée qui ouvre alors le projet.
Ils se trouvent dans un centre de conservation. Dans un centre de conservation et d'études des collections qui a été le premier bâtiment à ouvrir. Je crois qu'il date de 2001, 2002, si mes souvenirs sont bons. Je ne me rappelle plus exactement la date. Donc, c'est vraiment le premier souci, c'était la conservation des collections et offrir à nos collègues conservateurs et aux chercheurs un bel outil. De conservation et de recherche des collections, puisque évidemment ces collections sont des collections publiques, elles sont ouvertes aux chercheurs qui les documentent, qui permettent aussi encore de faire des découvertes au sein même de nos collections. Ça, c'est très intéressant, par exemple pour nous qui travaillons aux expositions. Et puis ces collections qui sont issues d'une très très longue histoire sur laquelle on ne va pas revenir, parce que je crois que vous pourriez faire une avec mon collègue David Besson et notre directrice de pôle Maria Locchia, une émission rien que là-dessus, parce que c'est une histoire passionnante.
On a évoqué les mots connus tout à l'heure. Voilà, elle commence donc
des collectionneurs privés, des cabinets de curiosité qu'on appelle. Ça commence les premières collections. Elles commencent au XVIIe siècle en fait. Petit à petit, ces collections vont s'agréger de plusieurs collections privées, de plusieurs cabinet de curiosité. Et puis elles vont devenir publiques à la Révolution. C'est d'abord des collections qui sont présentées dans l'actuel Musée des Beaux-Arts de Lyon, où en fait ces collections étaient présentées, notamment les collections d'archéologie, de préhistoire, pour celles que je connais le mieux. Et puis ensuite, le musée Guimet va naître à la fin du 19e siècle avec Émile Guimet, cet industriel lyonnais qui crée un musée des religions asiatiques.
Et puis il déménage
à Paris.
Et puis il revient.
Enfin, une partie des collections revient et va agréger en fait à la fois ses collections d'histoire naturelle, mais aussi ses collections d'ethnologie. Et puis d'autres musées qui abritent, enfin que les murs abritent aussi, notamment le musée qu'Edorario avait créé, le musée colonial. Maintenant on est riche de l'ensemble de ces collections, c'est pour ça qu'on a une très grande diversité de collections, ce qui est quand même assez étonnant dans le monde des musées. On a à peu près toutes les collections qui peuvent se retrouver dans des musées typologiques bien définis et qui n'ont pas cette richesse et cette variété de collections.
Encore une minute peut-être, enfin du moins cela va dépendre de vous. Comment est-ce qu'on pourrait, donc de manière synthétique, mais je crois que ça va être difficile aussi, comment présenter ce musée des confluences? Auditeur, auditrice, je ne fais que lancer la question. Christian Sermet va prendre le temps pour y répondre. Et puis surtout, ensuite, nous évoquerons une sorte de visite du lieu, nous pourrions faire. On pourrait commencer par le deuxième étage, l'étage d'exposition permanente, puis ensuite se promener dans l'exposition temporaire. Mais arriver dans ce lieu, déjà techniquement c'est quand même tout à fait possible de s'y rendre de toutes les manières possibles, hein. Le tram y va, non, le métro pas tout à fait, il faut s'arrêter à Perrache, il faut ensuite descendre un coup de tram, il y a des bus qui vont, il y a également des vélos, on peut y aller à trottinette, on peut y aller en mode doux, on peut y aller à pied, on peut y aller depuis toutes les berges, non peut-être pas du côté de...
On peut même venir en voiture avec un parking qui maintenant est de l'autre côté du Rhône. Voilà. Comment je le définirais? Comme je le définis habituellement, un musée interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est un musée qui, riche de cette diversité de collections, a une approche des sujets qui se veut interdisciplinaire. On travaille avec des comités scientifiques et on travaille en bonne intelligence, sciences dites dures et sciences humaines comprises. Et on fait travailler des scientifiques qui, jusqu'à très peu de temps encore, avaient du mal à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus dans les mœurs, même s'il y a encore quelques résistances. Je me rappelle quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on était un peu un ovni dans le paysage muséologique, parce que...
Vous parlez de l'objet ou le musée lui-même, enfin, comment
dire, je parle du musée lui-même.
Parce que l'objet, on pourrait le qualifier peut-être
aussi. Les deux, que ce soit, spécial. Que soit l'architecture. C'est vrai que c'était une architecture qui était un peu nouvelle en France, puisque c'était un projet d'un type d'architecture, ce qu'on appelle le déconstructivisme, et d'envergure. C'est quand même un bâtiment assez imposant.
Immense, ouais.
On n'en avait pas construit d'aussi complexe jusqu'à présent en France. D'aucuns même pensaient que c'était impossible. On est assez fiers de leur montrer que c'était possible. Et puis surtout, c'est un musée qui a trouvé son public très rapidement dès l'ouverture. On a aujourd'hui une fréquentation qui est la plus grande fréquentation d'un musée de province. C'est-à-dire on est classé régulièrement entre la 10e et la 12e place. Et les musées qui nous précèdent sont tous parisiens. C'est Orsay, c'est le Louvre, c'est Versailles, c'est... voilà. Et on a une moyenne de 650 000 visiteurs qui prennent un billet pour rentrer au musée. Et ça, on est assez fiers de maintenir cette fréquentation qui, depuis cette année, augmente. Et on retrouve des chiffres qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu'on avait en 2016, donc quelques temps après l'ouverture. Donc ça, on en est très fiers. Et c'est un musée surtout qui est un musée populaire. Le département du Rhône, quand il a créé ce projet, sa volonté, c'était de faire venir un public qui ne venait pas au musée. Et aujourd'hui, on en veut pour preuve la dernière exposition, À nos amours, par exemple, où on a, je ne me rappelle plus quel est le pourcentage, mais je crois qu'on a entre 5 et 6 visiteurs sur 10 qui n'étaient pas venus au musée. 10 ans après son ouverture, c'est quand même assez, assez extraordinaire que des sujets et la manière dont on les traite font encore venir non seulement les habitués, mais de nouveaux publics.
Auditeur, auditrice, Christian Sermet n'a pas tout dit sur le musée des confiances. Il reste encore beaucoup à en dire et peut-être aussi beaucoup à rêver. Enfin, c'est seulement la transition que j'invente comme cela pour le titre que nous allons écouter, ce titre de Henri Salvador, extrait de ses derniers albums. Je crois que c'est presque...
C'est le dernier.
Il n'est pas posthume cet album.
Il n'est pas posthume.
Juste un peu avant. J'ai tant rêvé et puis nous continuerons avec notre invité à parler plus précisément de ces différentes expositions. Notamment, une exposition est à venir et puis je le place tout de suite. Auditeur, auditrice, vous le savez, non ? Cette fin de semaine qui arrive, là, on est presque à la fin septembre. Journée du patrimoine. Donc, différentes choses seront organisées, dont notamment la gratuité. Et c'est toujours intéressant. Ce sera ces samedis 21 et dimanche 22 septembre, 10h, 18h, 18h30. Enfin, nous allons évoquer tout ça dans quelques instants, mais tout d'abord, rêvons avec Henri Salvador.
J'ai tant rêvé de pouvoir voler bien au-delà du soleil, d'être toujours comme un enfant qui s'émerveille. Oh oui, j'ai tant rêvé, j'ai tant cherché à remonter jusqu'à la source du bonheur, à comprendre pourquoi soudain battait mon cœur. Oh oui, j'ai tant cherché, j'ai tant voulu connaître le pourquoi, le comment. J'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie. Tant connu tous ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom. Pourquoi l'amour s'éteint
pas, Christian Sermet. Je vais quand même lire ce passage parce qu'il y aura un rapport, puis je vous laisserai le faire aussi sur le rêve. J'extrais ce que je vais lire de À la pointe de Pierrick Bailly. Il évoque donc une rencontre, je passe un peu les premières lignes. Ce jour-là, j'arrive à 18h30 pour la fermeture des portes. Une jeune femme descend les escaliers en rebondissant et en tenant son téléphone à hauteur du visage. Probablement en mode haut-parleur. Elle parle si fort qu'en restant à une dizaine de mètres d'elle, j'entends tout ce qu'elle dit. Ainsi, j'apprends qu'elle vient de passer la journée au musée. Elle continue à sautiller tout en avançant vers l'arrêt de tram et j'essaie de la suivre discrètement car j'ai l'impression que son état d'euphorie est précisément dû à la visite. Enfin, je ne suis pas là pour assurer la promo des lieux, je ne veux pas faire croire qu'une visite au musée des Confluences offre l'assurance d'une année sous le signe de l'amour et de la joie, mais pour cette jeune femme, l'effet est assez spectaculaire. Elle est littéralement euphorique, elle doit avoir trouvé ce qu'elle était venue chercher. Pour le formuler autrement, sa visite a dû résonner avec ses préoccupations du moment. J'ai toutefois du mal à saisir ce qui l'a tant intéressée, son discours est assez désordonné. Elle évoque tout un tas de références culturelles, elle parle de Tintin et d'un album en particulier, L'oreille cassée. Elle prétend avoir retrouvé la statue au centre de l'intrigue. Ils l'ont, elle est là, je l'ai vue. Elle enchaîne en évoquant Indiana Jones. D'ailleurs, la dernière phrase qu'elle prononce avant de sauter dans le tram est une citation du premier film de la saga, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, que j'ai vu plusieurs fois. Ouais, je la refaire, Christian. Jones, nous sommes de la même étoffe tous les deux, l'archéologie et notre religion. Était-elle au téléphone avec Harrison Ford? Mais le tram referme ses portes et je reste sur le quai. Tant pis pour moi, j'aurais aimé l'aborder, je n'ai pas osé. Je me demande bien qui était cette jeune femme quand même. Une autrice de bande dessinée, une simple tintinophile, une réalisatrice de blockbuster, une archéologue, voire une voleuse d'antiquité. Et la chose se termine. Il y a quand même cette idée que le musée peut permettre de réaliser peut-être des rêves. Chouette, on retrouve Henri Salvador.
Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé de définir le musée des Confluences. Je vous ai dit, alors, d'un point de vue typologique, c'est un musée interdisciplinaire, mais c'est avant tout ce qu'on a voulu créer, c'est un musée qui fait rêver. Venir au musée, c'est passer un bon moment, c'est passer un moment de plaisir, même si c'est pour en retirer une connaissance. Un étonnement parce que il faut venir avec un esprit curieux et se laisser surprendre parfois par des choses qu'on ne connaît pas, par des rencontres avec des objets de populations qui ont été confectionnés par des populations qu'on n'a jamais rencontrées ou qu'on ne rencontreront jamais parce que elles ont soit disparu ou elles sont à l'autre bout du monde. Le plaisir a été pour nous un mot que l'on n'a jamais oublié. Quand on a fait notre parcours permanent ou quand on conçoit nos expositions temporaires, on pense avant tout que le public qui doit venir au musée doit en retirer, certes, une connaissance, mais pas une connaissance comme on avait pu définir les musées au 19e siècle, c'est-à-dire un musée d'un savoir établi. Là, on préfère plutôt que ce qu'on apporte en contenu incite le public, en sortant du musée, à poursuivre son étonnement en allant à la rencontre du sujet, mais par le biais d'un film, par le biais d'un ouvrage, par le biais d'une conférence, qui vienne au musée en aiguisant son esprit critique et en aiguisant son ouverture d'esprit. Et tout ceci, ben, si possible, en éprouvant quelques émotions qui vont lui permettre de mémoriser ce moment et lui donner envie de revenir. Par exemple, dans le parcours permanent, dans Origine, on peut toucher un morceau d'une météorite. Cette météorite, en fait, elle est issue de l'explosion et donc d'une étoile en fin de vie, une étoile de première génération. C'est les premières étoiles qui ont été constituées par le Big Bang. Elles ont consommé tout leur hydrogène et à la fin de leur vie, elles ont explosé. Cette matière qui a explosé, elle a continué à voler dans l'univers. Et puis elle s'est réagrégée. Et dans cette réagrégation, la densité de cet amalgame a fait que ça a créé une étoile de deuxième génération qui est le Soleil. Et puis de cette matière qui a créé le Soleil et qui était issue d'une première étoile, il en reste encore dans l'espace et elle continue à évoluer dans l'espace, à gravité et à former des météorites. Et il y a une petite météorite qui est tombée sur Terre. Et cette météorite, un géologue l'a ramassée, l'a étudiée et il s'est aperçu qu'il y avait des micro-diamants à l'intérieur qui avaient piégé du carbone. En fait, les diamants sont du carbone. Et ces micro-diamants qui étaient piégés dans la matière, en les analysant, on a compris qu'ils étaient issus de cette première étoile. Donc, vous pouvez toucher au musée des Confluences quelque chose qui
est... C'est bien permis.
C'est permis.
Il est souvent indiqué ne pas toucher aux objets.
Et là, c'est recommandé parce que vous ne pouvez toucher rien de plus vieux dans l'univers actuellement, parce que peut-être qu'un jour, on pourra toucher quelque chose de plus ancien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est plus vieux que la Terre sur laquelle nous nous trouvons, qui est plus vieux que le Soleil qui nous éclaire encore. Et voilà, et certains publics, j'en fais partie, toucher quelque chose qui est plus vieux que la Terre sur laquelle on se trouve, ben, ça crée une émotion et peut-être ça crée une possibilité d'accès au contenu qu'on diffuse et qu'on délivre à ce moment-là et puis avoir l'envie d'avoir d'autres expériences comme celle-ci en revenant au musée. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut toucher quelque chose de plus vieux que le Soleil ou la Terre.
On peut toucher d'autres objets, hein, je crois aussi.
Alors on peut toucher des fossiles, oui. Par exemple, il y a un fémur de Camarasaurus dans l'origine. On a aussi une ammonite, donc c'est des espèces marines qui ont disparu il y a 65 millions d'années en même temps que les dinosaures, quand une grosse météorite est tombée dans le golfe du Yucatan, en Amérique centrale, et qui a accéléré un phénomène qui avait déjà commencé avec un survolcanisme, et qui a, là pour le coup, éradiqué 60 à 70% de la vie sur Terre, hein, les faunes marines et puis une partie de la vie terrestre, avant que, heureusement, quelques... rescapés, qui s'étaient enfouis dans le sol, je parle des animaux, ont pu poursuivre leur développement et l'humanité est issue de ces animaux. Voilà, et ce parcours permanent à travers l'exposition qui raconte l'origine de l'univers, mais pas seulement d'un point de vue sciences naturelles ou géologiques ou l'astrophysique, mais aussi d'un point de vue des cultures du monde et comment la diversité des cultures se sont expliquées l'origine du monde. C'est important de voir qu'il y a des appartenances entre des expressions de cette origine dans des cultures qui ne se sont jamais rencontrées. Il y a quand même un fond commun, ça c'est plutôt intéressant.
Le déluge, hein, voilà. Le fameux moment
qu'on retrouve dans plein de mythes qui expliquent l'origine du monde. Et puis une exposition sur la diversité des espèces et comment l'humanité se positionne dans l'histoire du vivant. Et l'histoire de cette étude, de ce positionnement, qui en dit long sur nos sociétés et surtout comment, en ayant une sorte de tropisme dans la manière de l'expliquer, ça a positionné l'humain un peu en démiurge, c'est-à-dire comme un peu une divinité sur les autres espèces animales. Et aujourd'hui, on voit bien que la société a évolué et est en réaction par rapport à ça. Mais toutes les sociétés n'ont pas pensé la même chose. Ça, c'est aussi intéressant de le découvrir. Et puis, on a la question de la mort. Et à travers les rituels funéraires dans Éternité, on comprend la diversité des cultures et surtout, ça en dit long sur les vivants, en fait, aussi, à travers également le temps long, donc des civilisations qui ont disparu, mais aujourd'hui, quelle est cette question de la mort dans nos sociétés contemporaines, qui est devenue quand même relativement taboue. Je parle de la mort du quotidien, parce que la mort est partout, la mort violente, elle est sur tous les écrans, et il y a une sorte aussi d'abîme entre les deux qu'on essaye d'expliquer. Et puis la société, l'exposition Société, qui est en pleine refonte. On réfléchit pour la refaire puisqu'elle a 10 ans d'existence et société, on voit bien que les sociétés ont évolué en 10 ans, donc on remet un peu la question sur l'établi et on est en train d'y réfléchir pour une ouverture, nous l'espérons, en 2027. Voilà, alors ça c'est le parcours permanent qui traverse un peu les quatre grandes questions que toute l'humanité dans sa diversité culturelle s'est toujours posée, c'est-à-dire en gros, quelle est notre origine, quid après la mort de l'existence hypothétique.
Qui sommes-nous peut-être
les espèces ? Qui sommes-nous, c'est-à-dire voilà, quelle est notre identité par rapport aux autres espèces et les sociétés, comment elles se sont organisées et comment on... pouvons-nous vivre en société aujourd'hui ?
Donc ça, c'est l'étage supérieur.
Voilà, c'est l'étage supérieur. C'est un peu l'étage fondamental qui donne un peu l'identité du musée. Et puis, on a toute la programmation d'expositions temporaires. On ouvre 4 expositions dans l'année, différentes, selon des périodes qui sont les vacances de février, les vacances de Pâques, pour la tour. Toussaint, je vais l'appeler comme ça, et puis généralement une avant l'été.
Et sur des durées longues.
Et c'est surtout sur des durées longues, sur 10 mois, c'est la moyenne de nos expositions, parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'est bien le temps qu'il faut pour le public lyonnais, le public régional, et même national, puisque une grande part de notre public est national, parce que on n'est pas à Paris, en fait. À Paris, il y a une multitude d'institutions qui luttent un peu pour exister, et qu'il y a un turnover assez régulier des expositions qui durent bien moins longtemps. Aujourd'hui, venir au musée, la moyenne de fréquentation pour ceux qui y reviennent est en moyenne 2 à 3. Donc en gros, c'est intéressant que quand on revient au musée, on ait une nouvelle exposition, mais on peut aussi aller voir les autres, celles qu'on a vues peut-être un peu rapidement ou qu'on a envie de revoir. Et on préfère offrir un temps un petit peu plus long à nos publics. Voilà, c'est ce qui n'empêche pas d'avoir 650 000 visiteurs par an.
Les salles aussi, hein, on parle de temps, mais les salles sont grandes. Hein. Vous avez évoqué donc le parcours permanent, mais que ce soit permanent ou temporaire, les salles sont immenses, avec un cheminement qui se fait, beaucoup de hauteur, et puis tout type d'interface, les objets sont présentés. Il y a également un peu de vidéo, il y a des explications, il y a donc des panneaux, il y a aussi tout type
Alors,
de choses.
Comme nous sommes dans un musée, la collection est reine. Parce qu'il n'y a pas de musée sans collection, mais par contre, on travaille beaucoup sur la manière dont on l'expose et la manière dont on illustre, dont les collections illustrent notre propos. Et donc, on utilise tous les moyens qui existent, la lumière, la mise en scène. On a des mises en scène qui sont...
Pour Coban ou pour la momie.
Qui sont théâtralisées.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'on pense que théâtraliser la collection dans une lumière adaptée, avec des sons adaptés, ça permet mieux la rencontre avec le public. Ça crée une émotion, et cette émotion qui n'est pas une fin en soi. Ça n'est qu'un moyen pour nous. On ne l'utilise pas tout le temps, mais ça favorise. Et vous parliez de la grandeur des salles. Il se trouve que dans le parcours permanent, nous avons 4 salles, dont une... dont 2 qu'on peut jumeler. Et pour la prochaine exposition Rêve, le temps d'un rêve, justement, c'est une exposition qui va associer la salle 11 qui fait 740 mètres carrés et puis la salle 15 qui en fait 275 pour avoir un projet qui fait plus de 1000 mètres carrés. Parce que là, le sujet s'y prêtait vraiment. La question du rêve nous amène dans plein de d'axes, en fait. Elle nous amène dans les temples antiques, égyptiens ou grecs, qui étaient dévolus à des divinités, qui étaient le gardien de nos rêves. Et les pèlerins allaient rêver dans ces temples. Et au réveil, quand ils se réveillaient, ils parlaient aux prêtres, ils expliquaient ce à quoi ils avaient rêvé, et les prêtres en donnaient une interprétation. Parce que souvent, soit la divinité les avait rencontrés dans leurs rêves et ça avait un sens, et c'est les prêtres qui ont donné la signification. Donc il y avait des ex-voto, soit on guérissait d'une maladie, on réglait un problème, ou on était mis au courant d'un problème à venir, ou d'une bonne nouvelle. Voilà. On va traverser dans cette exposition le cabinet de Freud, un psychanalyste qui s'est beaucoup interrogé sur les rêves et qui ont donné des significations de son temps. Et puis on va parler aussi de scientifiques qui ont étudié le rêve. Quelle signification ça a de rêver ? Est-ce que nous rêvons tous ? Est-ce que nous sommes la seule espèce à rêver ? Y a-t-il d'autres espèces qui rêvent ? Alors je peux vous dire que certainement, et vous prévenir les découvrir, parce qu'il y a des espèces assez étonnantes auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et puis, combien de temps on rêve dans notre vie, à votre avis?
Je vous propose de un temps de réflexion. Peut-être qu'on pourrait se ménager une courte pause avant de relancer ma réponse à cette question. Et puis, on est peut-être passé un peu vite sur l'exposition temporaire, donc sur différentes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? J'ai le titre à bon entendeur avec... Versus Françoise Hardy, ils ont l'air de s'opposer le temps de l'amour. Mais j'ai également, je les connais, j'ai écouté une bonne émission, une belle émission sur France Culture de Johnny Rass et puis Jean Boucaud, je ne sais pas comment les qualifier, des oiseleurs, des oiseaulistes. Est-ce qu'on écoute des oiseaux qui peuvent peut-être prêter au rêve, ou alors Françoise Hardy qui nous a quittés, c'était au mois de juin, c'est ça,
Je vais plutôt choisir Françoise Hardy pour rappeler que c'était une des chansons qu'on pouvait actionner dans le jukebox de l'exposition À nos amours, où nous avons offert une petite salle de danse au public, où le public pouvait venir danser, ce qui n'est pas habituel dans une exposition de musée.
C'est le clip que je diffusais et je n'avais pas préparé jusqu'au terme. Je m'aperçois, à suivre, il est indiqué que la fin est un peu étrange. C'est une sorte de... une invitation au voyage, peut-être au rêve. Nous sommes toujours en excellente compagnie avec Christian Sermet qui justement nous parlait de rêve. Vous êtes responsable du service des expositions au Musée des Confluences. Un beau musée qui, oui, moi j'en faisais partie dans les années 2010 quand ça commençait à arriver. Je me disais, mais c'est quand même très étrange comme lieu. Et là, pour y être allé plusieurs fois ces derniers temps, je le trouve vraiment formidable de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Et donc là, vous me lancez une question sur le rêve. Je vous laisse répondre et puis peut-être continuer un peu à présenter cette exposition, puis les autres temporaires, car auditeurs, auditrices, Parcours pas maintenant, on l'a fait. Je vous inviterai à réécouter l'émission sur le blog. Et puis, vous me demandiez combien de temps on rêve dans toute une vie, c'est ça?
En fait, on passe un tiers de notre vie à dormir et en grande partie dans ce tiers à rêver. Donc en fait, on rêve pratiquement un tiers de notre vie. Mais on ne se souvient pas souvent de nos rêves.
Ah ouais,
donc ça aussi, dans l'exposition, on va expliquer pour quelle raison. Et
qui ne
pour
quelle pas, raison, pas tout de suite, auditeur-auditrice, c'est dans 2-3 semaines, c'est ça?
Alors l'exposition qui s'appelle « Le temps d'un rêve », je vous expliquais, on allait se promener à travers différents rêves, ça c'est grâce à la scénographie, et explorer un peu la signification des rêves dans les cultures et dans le temps. Elle ouvrira le 18 octobre, de cette année.
Vacances de la Toussaint, voilà, c'est ça.
Vacances de la Toussaint.
Et je vous ai coupé, là, vous étiez en train de me dire justement que les rêves, enfin comment dire, je vous ai coupé, zut, mince,
c'est pas grave.
On s'est coupé.
Non, je vous expliquais qu'aujourd'hui, on en apprend un petit peu plus sur les rêves grâce à la science. On a longtemps pensé que le rêve, ce qu'on appelait le sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une activité cérébrale qui fait que les pupilles qui bougent, c'est-à-dire qu'on suit des mouvements.
C'est le REM,
voilà. Sommeil paradoxal, on était persuadé que c'était le moment où on rêvait. Maintenant, on sait qu'on rêve avant et après. Donc la durée du rêve, c'est rallongé. Voilà. Bon, ça, c'était pour la partie scientifique. Vous pourrez aussi, grâce à l'intelligence artificielle, ça c'est intéressant, venir décrire vos rêves. Et puis ensuite, l'intelligence artificielle va les mettre en image. Vous pourrez visualiser peut-être vos rêves. Ça, c'est le temps d'un rêve, mais on a...
Que d'interactions. On pouvait danser pour un de nos amours.
Et puis voir vos rêves.
Et là, on pourra voir les rêves.
Prendre forme.
On peut voir des animaux en forêt, c'est ça aussi?
Alors, on peut voir en forêt avec Vincent Munier. C'est une exposition qui va se poursuivre jusqu'en avril 2025, jusqu'au 27 avril.
Belle durée.
On a travaillé avec Vincent Munier, qui est un photographe de renommée internationale, qui a même gagné un prix, un César, avec son film sur la Panthère des Neiges, récemment, qu'il avait écrit avec Tesson. En fait, Vincent Munier est un photographe contemplatif, patient. C'est quelqu'un qui va en forêt depuis qu'il est tout petit pour observer le vivant, les espèces sauvages. Et l'exposition nous fait partager son expérience et surtout il nous explique comment nous aussi nous comporter pour rencontrer ces espèces sauvages qui vivent là, en forêt, à côté de chez nous, hein, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on ne se comporte pas comme il faudrait pour justement réaliser ces rencontres. Et puis on a une exposition qui a ouvert en avril dernier et jusqu'au 16 février 2025 sur l'histoire des épidémies, épidémie prendre soin du vivant, où on va... qui est une exposition qu'on a adaptée d'un projet initial de la Smithsonian de Washington, avec qui nous avons travaillé, et qui raconte un peu à travers l'histoire. Donc ça commence avec l'invention de l'agriculture au néolithique. C'est là où les maladies qu'avaient les animaux sauvages que nous avons domestiqués sont passées chez l'humain.
Ai-je bien lu les zoonoses?
Ce qu'on appelle les zoonoses. C'est comme ça que les grippes ont commencé, vraisemblablement. Et donc, on comprend à travers cette exposition, puisque ça traverse l'histoire et les géographies jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à finalement à la pandémie que nous vivons encore, la Covid. Vous avez vu qu'il y a un nouveau variant là qui fait quelques misères, mais bon.
En passant par le SIDA aussi, par la...
Évidemment, avec les grandes épidémies.
La fin de la variole, a priori.
On espère. Et en fait, on se rend compte dans cette exposition que l'humanité a toujours vécu avec des épidémies, tout le temps, et elle s'est adaptée. Tout le temps. Et c'est fort intéressant de voir comment dans le passé les sociétés ont réagi pour comprendre un peu mieux les choses, parce qu'on a un peu tendance à oublier que le vivant est quelque chose qui est dynamique et que il faut peut-être réapprendre à vivre avec le vivant et peut-être avoir moins de pression sur le monde sauvage pour éviter que ces maladies justement passent de l'un à l'autre, passent du monde sauvage qui est de plus en plus pressé, qui a de moins en moins d'espace pour vivre. Et c'est peut-être là la solution en fait à tous nos problèmes.
On utilise beaucoup ce mot-là pour le vivant. Enfin, quand je dis pour le vivant, voilà, je suis tout à fait réducteur pour les êtres vivants, pour les hommes. On parle beaucoup du respect, mais peut-être que le respect est également à montrer avec,
tout à fait.
Avec ce buisson du vivant. Et il faudrait bien constater que...
En fait, nous partageons la même histoire depuis l'origine de la vie. Dans Origine, justement, l'exposition permanente, on avait fait un choix très fort. Habituellement, quand on raconte et qu'on déroule l'histoire de la vie de l'origine jusqu'à aujourd'hui, on prend ce chemin, c'est-à-dire du moment le plus ancien jusqu'à aujourd'hui. Ça met l'accent, quand on suit les branches du buisson du vivant, ça met l'accent sur les différences, c'est-à-dire les moments de séparation d'une espèce originelle qui va finalement prendre une autre voie parce qu'elle va avoir, elle va développer des caractères qui vont faire qu'à un moment donné, bah, on comprend que c'est devenu une nouvelle espèce. Et donc, c'est ces moments-là qu'on raconte. Et nous, on a raconté l'histoire inverse. C'est-à-dire qu'on est parti du présent pour retrouver le fil de l'origine. Et en faisant ce chemin, ça n'est plus des moments de divergence, mais c'est des moments d'appartenance. Et on a préféré raconter cette histoire, c'est que tous les êtres vivants sur Terre partagent la même histoire et la même origine. Et si on explique cela, on voit peut-être chez les autres animaux quelque chose de beaucoup plus proche de nous qu'en racontant l'histoire dans l'autre sens. Puis je dirais même, si on regarde les autres humains, on voit aussi non plus des personnes différentes, mais des personnes qui ont la même origine. Ce qui valorise encore plus les différences culturelles, à mon avis.
Cette émission, c'est bien qu'on la fasse peut-être après, que nous soyons en train de la faire après un moment politique de la fin juin, tout début juillet. Peut-être qu'on pourrait se laisser interrompre par quelques oiseaux et puis on reprendra le fil à 14h et presque 55 minutes. Il est temps de passer un peu à l'agenda et puis je pense qu'il y a encore peut-être des renseignements pratiques qu'on pourrait donner pour le musée des conférences. Et puis je crois qu'on n'a peut-être pas complètement tout dit. Écoutons quelques oiseaux. Alors les titres, je vois, sont un petit peu longs. Peut-être le carnaval des animaux. Je vois que ça fait 2 minutes, mais écoutons seulement quelques instants. Et puis nous reprendrons donc fin d'émission sur le musée des confluences avec aussi quelques annonces qu'il faut mettre à l'agenda. C'est absolument terrible ce que je fais, parce que oui, ils interviennent enfin, Johnny Rass et Jean Boucaud, ce sont bien des personnes qui et non pas des oiseaux, ce sont des personnes qui font les oiseaux. Auditeurs, auditrices, fin d'émission, il nous reste encore 4-5 petites minutes, nous allons encore évoquer un peu le musée des confluences, mais c'est le temps habituel. Francis n'aura donc pas fait sa chronique. Auditeurs, auditrices, ça peut faire aussi une sorte de suspense sur cette année. Combien de fois l'ami Francis sera-t-il présent pour nous parler de ses lectures? Ben, a priori, c'est pas pour l'émission de reprise, peut-être la semaine prochaine. Bon, il m'a fait savoir, je peux déjà vous l'indiquer, que ce serait un peu compliqué encore pour lui cette année. C'est dommage, ça l'a déjà été l'année dernière. Les annonces, en revanche, ont bien lieu en fin d'émission. Quelques annonces sur des spectacles à venir. Alors, il y a des pièces de théâtre qui sont données actuellement au TNP ainsi qu'au Célestin. Au TNP à Villeurbanne, ce sont les Messagères qui ont déjà commencé, qui se terminent dans les jours à venir, alors qu'au Célestin, les Sœurs Hilton, ça va commencer. Ça commence demain, le 19 septembre, c'est jusqu'au 29 la semaine prochaine. Ce sont deux comédiens de la Comédie Française, Christian Heck et Valérie Le Sor, qui viennent interpréter, enfin du moins, qui viennent raconter l'histoire des Sœurs Hilton, qui étaient des Siamoises, au début du 20e, je crois. Il y a un festival qui va avoir lieu sous peu, le festival de Kibland, qui s'appelle IF. C'est en fait un festival d'illustration, c'est de lettres IF. C'est fin septembre aux Subsistances. Le festival Contre Sens commence, lui, le samedi 12 octobre et nous recevrons la semaine prochaine Patrick Penaud, le directeur du festival. Ce sera jusqu'au samedi 26 et puis c'est à peu près tout parce que la musique est un peu relâche actuellement, quoique si l'ONL va donner un autre concert après en avoir donné un premier la semaine dernière. en grande forme. Hein, si vous pouvez aller cette semaine écouter les œuvres qui sont jouées demain et samedi, bien allez-y. C'est un bel orchestre avec son chef Nicolas Schepp-Snyder qui manie très bien sa baguette. Et la semaine dernière, c'était aussi la reprise pour l'orchestre de l'Opéra de Lyon. La grande forme aussi de Daniele Rusconi, mais l'opéra sera à venir, l'opéra qui va démarrer la saison arrive un peu plus tard, le 2 octobre. Ce sera l'opéra Wozzeck d'Alban Berg qui sera donné jusqu'à la fin octobre. Je ferai d'autres annonces peut-être sur le blog. Notre dessinatrice favorite, Priscilla Horviller, l'a sorti, son livre dont elle était venue nous parler. C'était en février dernier, je crois. Et ce livre est sorti quelques semaines. Peut-être viendra-t-elle nous en parler à la fin octobre. On évoquera aussi la revue Ouroboros. Et puis nous parlerons aussi d'une assemblée générale qui est un collectif de théâtre. Le dernier mot, généralement, c'est l'invité qui l'a. Christian, épidémie, non, on n'a pas tout dit, je crois. Et on n'a pas non plus Secret de la Terre, mais bon, ça fait longtemps que l'exposition est là. Toutes les écoles, tous les CM2 de France, ils sont allés, disons, CE de Lyon, oui, CM2, CP, CE1, oui, c'est un peu tout. Étudiants aussi, hein, je crois.
Alors, on a le primaire, mais on a aussi des étudiants et des professeurs avec leurs étudiants qui sont venus et qui nous ont même demandé s'il y avait une possibilité, après l'exposition, de pouvoir bénéficier dans le cadre scolaire de ce qu'on réalise pour archiver nos expositions. C'est des captations à 360 degrés qui nous permettent de mémoriser un peu et d'archiver l'exposition comme on a pu la voir.
Ah, ça passe par un écran, là,
cette fois-ci. Donc elle aura une seconde vie universitaire, on en est assez content. Voilà. Quelques mots, pour faire un peu écho au morceau de musique que vous nous avez laissé entendre, c'est-à-dire Jean Boucaud et Johnny Ras, qui sont des chanteurs d'oiseaux, des imitateurs d'oiseaux, et qui travaillent avec des musiciens, donc des orchestres symphoniques, mais là, en l'occurrence, un saxophoniste, Guillaume Berceau.
C'est un morceau de Saint-Saëns.
Ils se produiront au Musée des Confluences le 3 octobre. Parmi d'autres activités, c'est notre nocturne mensuel, et en lien avec, justement, en écho avec l'exposition En forêt avec Vincent Munier. Je voudrais peut-être terminer sur les Journées du patrimoine qui... chaque année reviennent, et ce sera le samedi 21 et 22 septembre.
C'est-à-dire cette fin de semaine, là.
Voilà, cette fin de semaine. Et évidemment, le Musée des Confluences est présent pour ces journées du patrimoine. L'entrée du musée est gratuite. Le musée a les mêmes horaires que d'habitude. Hein,
Est-ce qu'on va réussir? 10h30.
Voilà.
18h.
C'est ça, tout à fait.
Pile.
Et là, pour le 30. Coup, pendant ces journées du patrimoine, évidemment, l'entrée du musée est gratuite. On peut venir redécouvrir l'exposition permanente et les expositions temporaires. Mais surtout cette année, vous êtes invité, réservation conseillée. Alors, à venir voir une projection d'un film qui présente la programmation du musée pour l'année, mais surtout, vous pouvez venir visiter les coulisses.
Ça, ce sont les salles qui sont dessous,
voilà,
notamment.
Voilà,
on était au deuxième tout à l'heure.
Voilà, là, on est vraiment en sous-sol. Et donc, c'est venir découvrir les coulisses de l'auditorium avec, évidemment, les collègues qui font vivre l'auditorium. Si vous ne savez pas comment fonctionne une scène, voilà, vous pouvez venir découvrir celle du musée.
On pourrait évoquer encore beaucoup de choses parce que les petits dépliants sont toujours très complets sur les spectacles du Musée des Confluences. Vous en avez indiqué un, merci Christian. Il y a également des regards scientifiques qui sont des conférences, des projections, des rencontres et des nocturnes. Il y a aussi les petits, il y en a un petit sur il y a un pass. Il y a un pass qui est tout à fait accessible avec un prix qui est absolument modique.
Écoutez, vous l'amortissez en deux fois.
Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Musée des Confluences. Je crois que je vous l'avais dit, donc je le fais. Christian Sermet, il faudra revenir, ou à défaut, il faudra que nous sollicitions Emmanuel pour qu'une autre personne, Johan Cormier, est venu, ça fait quand même 5 ans, donc peut-être avant 5 ans, ce serait intéressant de recevoir éventuellement, ce serait quand même beaucoup, mais moi, cela pourrait m'intéresser, Hélène Lafont-Couturier, mais bon, c'est son agenda doit être plein, peut-être qu'on peut prévoir ça à 2 ans, quelque chose comme ça. On n'a pas évoqué cette collection à la pointe de Pierrick, enfin à la pointe des collections des Confluences, édité chez Cambourakis. Il y a un prochain titre qui va arriver de... Ah mais oui, voilà, c'est ça, Wilfried Nsondé, qui fait également il fera une présentation le 2 octobre.
Le 2 octobre, oui. je l'accompagnerai pour présenter son ouvrage qui c'est une fiction entre la rencontre entre trois femmes, les trois femmes qui vous accueillent dans
Origine,
dans l'entrée de l'exposition Origine, c'est Flores, Sapiens et Néandertal.
Ce sont des comment qualifier, ce sont des mannequins, c'est quoi?
Ce sont des reconstitutions, sont des reconstitutions scientifiques, c'est-à-dire à partir des ossements, comme font les anthropologues des instituts médico-légaux, c'est-à-dire reconstituer le visage d'un cadavre pour retrouver son identité ensuite avec la police judiciaire. Ce sont les mêmes anthropologues qui travaillent avec des préhistoriens et avec pour le coup Elisabeth Dénès qui fait ces reconstitutions. Donc ce sont vraiment des reconstitutions scientifiques basées sur des éléments probants, c'est-à-dire que les vêtements par exemple, quand on imagine comment s'habillait, c'est grâce à des représentations, ce qu'on a découvert en fouille, ou les éléments, par exemple des outils. Et on comprend qu'avec ces outils, on pouvait faire, par exemple, coudre de la peau, etc. Donc, ce qu'on voit a été validé scientifiquement. La couleur des yeux et la couleur des cheveux de la néandertalienne...
Taille, elles sont toutes petites.
Pas toutes.
L'Everest, donc, c'est Flores,
oui. La couleur des cheveux et des yeux de Néandertal, c'est grâce à un travail sur son ADN. On a retrouvé l'ADN de Néandertalien et on sait que c'est une espèce endémique de l'Europe, enfin de l'Eurasie, et voilà, la plupart étaient comme elle. Et puis Flores, en fait, elle vivait il y a 50 000 ans sur une île en Indonésie, et ces isolas, des îles où, autour d'une oasis au milieu du désert, eh bien les espèces vont développer des caractères physiques qui sont différents du reste de la population qui... continue à se développer et à se mélanger sur le continent. Là, ils vont s'adapter au lieu, qui est plus petit, et donc ils vont développer des caractéristiques qui vont être différentes. Et pour le coup, Flores, c'était une humaine, mais elle était de petite taille.
Auditeurs, auditrices, si vous souhaitez réécouter cela, allez donc sur le blog de l'émission, blog au pluriel, https, les fameux deux points, /blog au pluriel, radiocanu.org/spectaculaire pour réécouter donc l'émission d'aujourd'hui. Sinon, vous pouvez également, parce que les propos de Christian Sermet étaient quand même très précis, mais on les retrouve aussi dans les petits panneaux, les textes qui accompagnent. D'ailleurs, en fait, c'est vous qui en avez rédigé certains, hein, surtout pour cette exposition, ou Éternité davantage.
Éternité,
aussi
Origine et en partie Espèce.
On peut même vous écouter aussi sur un podcast qui est accessible sur le site du Musée des Confluences. Vous évoquez la dame, c'est ça,
de Cobham.
De Cobham, d'une nécropole.
C'est une nécropole qui a été fouillée par un ancien vice-directeur du Muséum d'Histoire Naturelle à l'époque, à la fin du 19e siècle. Et c'était ce qu'il avait fait, surtout, c'est qu'à l'époque, on s'intéressait qu'aux objets. Et lui, il avait ramené aussi les squelettes. Et il se trouve que cette tombe-là est la tombe éponyme de la culture cobanienne, qui est la culture d'Europe centrale, qui est l'équivalent, pour ceux qui connaissent, de l'Athènes en Europe de l'Ouest. Donc c'est cette sépulture qui a défini cette culture, et on a la chance de l'avoir dans nos réserves, et on a travaillé avec les Géorgiens, puisque la nécropole était en Géorgie. En bonne intelligence avec eux, on a réétudié la sépulture, on a réétudié les archives, et on a fait de nouvelles découvertes.
Il fallait bien ça, je crois. Arrivé à 15h06, mon Dieu, on dépasse complètement. Oui, mais le blues des canuts ne commence pas. Il est possible que l'émission soit maintenue à 16h. Il me semblait que Pascal repasserait à 15h. À 18h, si vous souhaitez, auditeurs, auditrices, les autres émissions, Mayday sera pour ce mercredi. Je vais vous indiquer également pour ce mercredi, pour terminer, le Canu Info à 19h, Idées Noires, émission de Lucelle à 20h. Et enfin, 21h, à la bande-son de nos révoltes. Avant de terminer, 22h minuit, une émission Boulimix, Funky Stéry. J'ai l'impression qu'on aura bien débordé, on est bien dans un moment de funk hystérie, un moment, comment dire, quand même, de... Mais il fallait bien ça, pour ce musée qui est absolument immense, énorme. Écoutons un dernier titre, j'avais sous les yeux Mercury Rêve, toujours extrait de la compilation des Inrecuptibles de septembre 2024, mais je préfère, je crois, lancer Nick Cave. Il évoque, voici le titre, Frogs, les grenouilles, extrait de l'album Wild God qui vient de sortir. Frogs, oui, c'est peut-être il y a peut-être une sorte de relation, une transition, quoi. C'est du vivant. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi la manière de désigner les Français, éventuellement. Très bien. Auditeur, auditrice.
C'est en tout cas un bon indicateur de la santé des étangs.
C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Christian Sermet. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous reparlerons du Musée des Confluences avec les expositions qui seront à Le Temps des Rêves à venir bientôt. Et puis, donc, une suivante, on en reparlera. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le Contresens, Festival Contresens avec Patrick Penaud. Si vous souhaitez davantage de renseignements, tout est disponible sur le blog. Merci tout le monde. Auditeurs, auditrices, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Et voilà. Merci. Au revoir.
Au revoir.